Bonsoir à toutes et à tous. Faut-il s'inquiéter pour la santé mentale de Joe Biden ? Après avoir appelé Emmanuel Macron, François Mitterrand, le président américain dans la même veine vient d'appeler Angela Merkel Helmut Kohl. Vexé qu'on puisse ainsi s'inquiéter de sa mémoire défaillante, Joe Biden, hier, est allé à la rencontre des journalistes et a lancé, je cite, « Je sais ce que je fais, bon sang, je n'ai pas de problème de mémoire ». Mais voilà, patatras, quelques minutes plus tard, devant les mêmes journalistes, eh bien Joe Biden confond le Mexique et l'Égypte en parlant du président mexicain Al-Sisi. Alors question, que signifient ces absences à répétition du président américain ? Est-il en mesure de postuler pour un second mandat ? Le camp démocrate a-t-il un plan B face au rouleau compresseur Donald Trump en tête dans les sondages ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Joe Biden, des trous de mémoire qui inquiètent ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicole Bacharan. Vous êtes politologue, historienne, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à West France. Je rappelle votre dernier ouvrage, « La plus résistante de toutes », c'est publié chez Stock. Anne Toulouse, vous êtes journaliste franco-américaine, auteur de « L'art de tromper », c'est aux éditions du Rocher. Marie-Cécile Nave, politologue, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis. Citons votre chronique bimensuelle dans l'Obs, la dernière, « Biden passe à l'offensive ». Laurie Kenton, maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin, chroniqueur au magazine Rolling Stones, et je cite votre dernier livre coécrit avec Julien Grosso, Rock and Road Trip, les États-Unis en 1000 chansons, c'est aux éditions hors collection. Et en Skype, on retrouve le professeur Philippe Amouyel, vous êtes directeur de la fondation Alzheimer. Merci de nous rejoindre pour ce C'est dans l'air, parce qu'on s'interroge, professeur, sur la mémoire de Joe Biden. Je l'ai dit, hein, mercredi, il a parlé d'une conversation avec Angela Merkel en 2021, mais au lieu de dire Angela Merkel, il a dit Helmut Kohl. Et la semaine dernière, il a raconté ses échanges au G7 en 2021 en Angleterre. Il parlait de ses échanges avec Emmanuel Macron, mais au lieu de dire Emmanuel Macron, il a dit Mitterrand, l'Allemand en plus. On écoute la séquence.
I went to what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. I was in the south of England. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from Germany, I mean, from France, looked at me and said, you know, how long are you back for?
Alors, professeur Amouyel, directeur de la fondation Alzheimer, c'est le signe de quoi ces absences à répétition de Joe Biden ?
Alors, je crois qu'il faut se replacer dans le contexte. C'est un homme de 81 ans qui préside la plus grande puissance mondiale et qui est soumis à un stress et une pression permanente. Donc, les trous de mémoire qu'il a présentés là peuvent très bien s'expliquer par un surmenage que n'importe quelle personne qui n'est pas dans cette situation aurait pu avoir, surtout à 81 ans. Donc je crois qu'il faut les replacer dans ce contexte et voir à quoi ça correspond. Il parle de la France, vous connaissez la perception parfois de la France par les Américains, alors vous me direz c'est le président des États-Unis, elle est parfois difficile enregistrer l'ensemble des présidents français. Donc on peut imaginer que fatigué par tant de responsabilités, il puisse présenter des trous de mémoire sans nécessairement que son jugement ou ses capacités de raisonnement soient altérées.
Donc ça n'est pas Alzheimer à vous entendre. Alors Alzheimer, ce serait quoi les symptômes, puisque ce n'est pas ceux qui présentent apparemment ?
Alors Alzheimer, c'est une maladie qui est extrêmement difficile à diagnostiquer. La moitié des gens qui se présentent dans les centres mémoire, généralement on exclut ce diagnostic et ils sont venus pour des troubles de mémoire. Donc ce que l'on observe là, c'est des pertes de mémoire ponctuelles à un moment donné, des troubles qui peuvent être tout à fait liés à l'âge et au vieillissement, mais poser le diagnostic de maladie d'Alzheimer sans examiner le patient, sans avoir un bilan complet et médical et biologique, on ne peut pas conclure si c'est Alzheimer ou pas. Dans la situation actuelle, ça pourrait être tout à fait autre chose, ou même simplement un vieillissement d'une personne de 81 ans soumise à une pression permanente et absolument colossale.
Donc c'est simplement qu'il a 81 ans et qu'il a des pertes de mémoire, ce qui arrive à tous les gens qui vieillissent, c'est ce que vous nous dites.
C'est la première chose à laquelle on pense. Après, il peut y avoir d'autres choses derrière, mais à partir des éléments que l'on a, à partir des faits qui sont décrits régulièrement par les médias actuellement, on ne peut pas aller plus loin dans le diagnostic.
Pourrait-on diriger les États-Unis d'Amérique avec la maladie d'Alzheimer ?
Non, je pense pas. Non, je ne pense pas. Très clairement. Et même, vous imaginez quelqu'un, même avec un Alzheimer débutant que vous mettez dans le bureau ovale, à mon avis, il tient pas 2 heures. Hein.
Alors, est-ce que néanmoins, ces absences et cette façon de chercher ces mots, de dire un pays pour un autre, est-ce que, il vous semble apte à diriger les États-Unis, enfin, je veux dire, à faire un second mandat, parce que pour l'instant, il n'a que 81 ans, j'allais dire.
Alors, hein, ça sort complètement de mes compétences, l'aptitude des présidents, en particulier des présidents américains. En revanche, je crois que la question qu'il faut se poser, que ce soit pour lui ou pour le candidat républicain, c'est l'âge. Est-ce qu'on accepte d'avoir un dirigeant qui a dépassé 80 ans ou qui va les dépasser au cours de son mandat? On sait que le vieillissement, quelles que soient les personnes, présente un certain nombre de problèmes, que bien sûr, ces personnes-là, ces présidents, sont des êtres quand même remarquables, exceptionnels, qui se maintiennent avec une vivacité, une capacité de décision jusqu'à un certain âge. Mais la question est-ce qu'on veut ces personnes à la tête de pays?
Merci beaucoup, professeur Philippe Alzheimer, donc directeur de la Fondation...
Philippe Amouyel,
directeur. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Hein,
voilà. Ah, voilà, un bon exemple.
C'est le début, exactement. Voilà. Donc, Philippe Amouyel, directeur de la Fondation Alzheimer. Merci, ben voilà. Donc, c'est QFD, ça arrive à tout le monde, Anne Toulouse, mais ça lui arrive plus qu'aux autres, quand même, on a l'impression, Joe Biden, de dire un mot pour un autre.
Oui. D'abord, quand on dit qu'il n'y a jamais eu de président qui est Alzheimer, si, il y a eu Ronald Reagan pendant les deux dernières années de son deuxième mandat, mais il avait derrière lui quelqu'un de très solide, qui était le futur président, le premier...
Et ça se manifestait comment? Alors, entre 86 et 88, les États-Unis étaient dirigés par un président...
qui avait un début d'Alzheimer, oui, c'est, mais qui avait quelqu'un, un vice-président, qui avait repris le contrôle du pays,
Bush,
qui, le premier George Bush. Et sinon, votre question, ben moi aussi j'ai un petit peu d'Alzheimer.
Ben voilà, en fait, on en est tous là.
Non, c'est contagieux.
Non, ma question est-ce que Joe Biden, on a l'impression que plus que les autres, quand même, enfin, je ne sais pas comment dire, il dit un mot pour un autre.
Moi,
est-ce qu'il a toujours été comme ça ou ça s'aggrave?
Oui, alors, moi, j'ai vu, connu en 1997, quand il a commencé à présider la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Donc, on assistait à des auditions et on savait que quand Joe Biden prenait la parole, on pouvait aller prendre un café, se remaquiller, enfin n'importe quoi, parce que ça durait 10 minutes, au bout desquelles il ne se souvenait plus de ce qu'il voulait demander. La personne qui était en face de lui ne s'en souvenait plus.
Déjà en 88.
Alors, il était, c'était en 97. J'ai dit
97, d'accord.
97. Mais en 88, vous avez raison de mentionner cette date, parce qu'il a eu à cette époque une très grave opération du cerveau, c'est-à-dire qu'il a eu un double anévrisme dans les deux artères qui, de chaque côté, irriguent le cerveau. Maintenant, et il en est resté avec peut-être des absences, pas au niveau du jugement, mais c'est vrai qu'il avait toujours... Alors, on disait les gaffes, alors les gaffes, c'est parce qu'il parle beaucoup, c'est un homme extrêmement bavard, alors plus on parle, plus on dit de bêtises. Et puis, il y avait aussi cette façon extrêmement confuse de pas... aller, si vous voulez, pour lui, le plus court chemin n'était pas la ligne droite. Il y avait toujours des circonvolutions. Et puis, c'est vrai qu'il a aussi quelque chose qui est extrêmement troublant, c'est sa façon d'affabuler. Et c'est une chose que je raconte. Alors, on dit il est menteur. Je ne sais pas si c'est menteur ou si c'est l'hyperbole véridique, comme dit Donald Trump, mais il raconte des histoires absolument abracadabrantes, qui sont faciles à vérifier. Par exemple, il raconte à plusieurs reprises qu'il a décoré sur le champ de bataille un soldat en Afghanistan et que le soldat en pleurant lui a dit non mais c'est pas à moi, il faut la remettre à mon camarade qui est mort. Ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est jamais arrivé.
Il affabule
et il raconte, on a beau savoir que cette histoire n'est pas vraie, il s'y cramponne. Il raconte aussi qu'il a été arrêté par la police sud-africaine en 1974 alors qu'il essayait de voir Nelson Mandela. Il était dans une délégation parlementaire, tout le monde a dit ça n'est pas vrai. Alors, c'est quand même, c'est troublant comme comportement.
Marie-Cécile Nave, est-ce que les Américains s'inquiètent de voir ainsi leur président affabuler, avoir des absences, dire un pays pour un autre, un président pour un autre, et ça s'aggrave. Est-ce que ça s'invite à 9 points de la campagne? Est-ce que ça s'invite dans le débat?
Oui, bien sûr, il est évident que c'est la principale faiblesse hein, du président candidat, que les républicains pointent du doigt chaque jour, s'en moquent, s'en repaissent hein, presque. Et c'est d'autant plus intéressant dans le cas qui nous occupe que l'actualité immédiate vient après qu'il ait qu'il est mis hors de cause dans le fait qu'il ait gardé des documents classifiés à domicile. Et en fait, on ne retient pas que finalement il est blanchi dans cette histoire. On retient que le procureur, dans un jugement qu'on va sans doute discuter, a des propos particulièrement subjectifs sur la mémoire de Joe Biden. Donc, ce qui devrait être une victoire en fait pour le camp démocrate, on retient pas ça. On retient que le
Il a dit qu'il n'avait pas poursuivi parce qu'en fait, il avait une trop mauvaise mémoire.
Voilà, trop mauvaise mémoire. Et c'est d'autant plus... Donc, ça devrait être une victoire. Et en fait, on ne retient pas ce qui, factuellement, est à l'avantage des démocrates. C'est d'autant plus dommage pour le camp démocrate que, ces derniers temps, Biden est passé dans une phase très offensive dans la campagne, avec plusieurs personnes de la Maison-Blanche qui sont mises au service de son QG de campagne dans le Delaware, avec un tour des États-Unis qui est fait par Kamala Harris sur la question de l'accès à l'avortement, avec un programme qui s'élabore pour défendre le pouvoir d'achat des classes moyennes, lutter contre le prix exorbitant des médicaments et donc la mise en place de l'Inflation Reduction Act. Bref,
on parle de l'âge du capitaine. C'est
voilà,
ce que
il passe à l'offensive, il dénonce Donald Trump, il cible d'autant plus Donald Trump qu'il ne le faisait jusqu'ici. Eh bien, on revient toujours sur ce problème-là. C'est la principale faiblesse des démocrates qui tentent de faire diversion, qui sont un peu dans le déni aussi, il faut le dire, dans le camp politique. Et donc lui, il doit vraiment attirer l'attention sur autre chose.
Et du coup, c'est du pain béni, Nicole Bacharan, pour Donald Trump, qui s'amuse à tourner en ridicule Joe Biden dans ses meetings. On va regarder un extrait où Donald Trump, avec son art du consommé, du showman, imite et ridiculise Joe Biden. On regarde la séquence.
We'd get up and say, I'm running for president. Where am I going? Where the hell am I going? I want to get out. Oh.
Bah oui, ça fait rire. C'est un showman. Est-ce que du coup... D'ailleurs, on s'interroge. En cas de débat au second tour, Joe Biden contre Donald Trump, est-ce que on connaît Donald Trump avec sa capacité à donner des coups de poing, à être dans la saillie? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que Joe Biden soit ridiculisé car il aurait un moment d'absence face à une saillie de Donald Trump?
Déjà, il n'est pas sûr qu'il y ait un débat. C'est pas obligatoire. C'est pas dans la loi, c'est pas dans le règlement électoral. C'est une tradition forte. Et c'est vrai qu'une élection présidentielle américaine sans débat, ça semblerait quand même un petit peu extravagant sur le plan démocratique. Mais l'un et l'autre camp peuvent refuser. D'ailleurs, la dernière fois, il devait y avoir 3 débats et Donald Trump a refusé le 3e. Donc il y en a eu que 2. Mais c'est vrai que le problème de mémoire de Joe Biden, qui est assez évident et et le professeur l'a bien expliqué, c'est un homme qui travaille énormément, qui est sous une pression incroyable. Il a tous les dossiers nationaux et internationaux qui arrivent sur son bureau quand vraiment, au sommet, disons, tout ce qui peut être réglé avant le bureau ovale est réglé. Donc quand ça arrive sur son bureau, c'est que c'est vraiment infernal. C'est pas anormal qu'il se trompe de mots. Mais ça ne peut pas s'arranger. Je veux dire, sa fonction ne va pas s'alléger, son âge ne va pas diminuer, et les incidents de cette nature, ils vont nécessairement se multiplier. Donc je crois que effectivement, la question est de savoir, est-ce qu'il y a une majorité de citoyens américains pour accepter un président qui, au cours de son deuxième mandat, sera... vieillissant et affaibli. Personne, enfin à part évidemment Donald Trump et ses opposants les plus virulents, mais personne aujourd'hui ne met en cause l'acuité intellectuelle de Joe Biden, sa capacité de raisonnement, sa capacité de décision. C'est lui qui décide, c'est lui le patron, et notamment s'il était question pour lui de se retirer en disant ben, c'est peut-être un peu tard. Mais sa capacité de mémoire immédiate, elle ne va pas s'améliorer. Alors je ne sais pas si vous souhaitez qu'on parle tout de suite de ce rapport du procureur sur les documents.
Alors voilà, c'est
qu'il a gardé de manière...
Le procureur Robert Ur. Nous avons estimé qu'au moment d'un procès, M. Biden se présenterait sans doute devant un jury, comme il l'a fait lors de notre entretien avec lui, comme un homme âgé, sympathique et bienveillant, avec une mauvaise mémoire.
C'est complètement extravagant, si vous voulez mon avis, parce que le procureur était chargé de dire si Joe Biden avait commis des fautes en gardant certains documents à la suite de sa vice-présidence, donc chez lui, documents classifiés, et il décrit pourquoi en fait il n'a pas assez d'éléments pour qu'il y ait poursuite, Et puis, il passe à l'état de la mémoire de Joe Biden avec une cruauté incroyable, notamment en détaillant des moments où il ne se souvenait pas des dates pendant qu'il l'interrogeait, et également le fait qu'à plusieurs reprises, il ne se souvenait pas de la date de la mort de son fils en 2015. Et au-delà de toute considération politique, je trouve qu'il y a... D'abord, il sort le procureur.
D'ailleurs, c'est ce qui a mis Joe Biden hors de lui, qui fait que hier, il est allé rencontrer les journalistes en disant « C'est incroyable de dire que je ne puisse pas me souvenir de la mort de mon fils. »
Qui est l'événement le plus traumatisant de sa vie. Et le procureur sort, Marie-Cécile le disait, des arguments juridiques, bon, qui ont le droit d'être, pour partir sur une espèce de diagnostic médical avec cet aspect ultra cruel, oui, j'ai envie de dire, au sujet de son fils, et à plusieurs reprises. Enfin, ce rapport est une machine de guerre contre le président Biden de la manière la plus personnelle, bien au-delà de la police.
Sauf que patatras, Laurie Kenton, au moment où il va voir les journalistes en disant « c'est incroyable qu'on dise que je ne me souvienne pas, j'ai une très bonne mémoire », et là, il confond, pouf, le Mexique et l'Égypte. Oui, mais... Alors on se dit « bon, bah, en fait, c'est QFD quand même ».
Oui et non, parce qu'en fait, on retient 8 mots ou 10 mots sur un rapport qui fait quand même 300 pages, qui le disculpe, oui, mais avec un ton qui est quand même parfois assez étonnant, parce que c'est pas ce qu'on trouve dans ce genre de rapport, et c'est pour ça qu'on parle aussi de ce côté politique. C'est aussi un juge qui est républicain, qui a travaillé dans l'administration Trump.
C'était un rapport à charge.
C'est un rapport à charge, et surtout, c'est un rapport qui a un ton très décalé par rapport à ce qu'on voit d'habitude, et surtout, on en retient qu'une partie, mais infinitésimale, et surtout celle qui ne compte pas, c'est-à-dire qu'il est disculpé, mais on retient la partie plus personnelle.
Il est trop vieux.
Attention, parce que est-ce que c'est un trou de mémoire ou est-ce que c'est simplement un lapsus comme le professeur Alzheimer? Mais est-ce que c'est pas juste un lapsus tout simplement parce que on remet en cause sa capacité à gouverner, donc le boulot qu'il fait. Et deux, en plus, il y a le côté qui le met hors de lui sur son fils. Et donc, forcément, quand on est en colère, on est peut-être plus, quel que soit l'âge, susceptible de faire des lapsus. Ce n'est pas pour le disculper, mais c'est peut-être pour situer ça dans quelque chose qui n'est pas relatif à la mémoire. Parce que quand il fait un certain nombre de lapsus, ouais, par exemple sur la France, l'Allemagne, non la France, il se reprend tout de suite. Il sait très bien qu'il a dit une bêtise, il sait très bien que sa langue a fourché. Et comme le disait Anne Toulouse tout à l'heure, c'est très loin d'être nouveau chez Biden. En plus, d'un petit point, il est bègue, il a un problème d'élocution, et donc chaque mot est un combat. Donc quand on ajoute tous ces paramètres, le stress, la colère...
C'est ça qui rend l'élocution difficile, hein, c'est que c'est un ancien bègue qui a surmonté sa difficulté. Et d'ailleurs...
C'est un travail constant, en fait.
D'ailleurs, c'est pour ça que François Bayrou dit, se voit des similitudes avec Joe Biden, en disant nous sommes des anciens bègues qui avons surmonté notre handicap et...
qui avons et qui surmontons, en fait, parce qu'il continue, en fait, à avoir ce risque de l'élocution qui fait que chaque moment de prise de parole est sensible, et d'autant plus sensible qu'il avance en âge, et d'autant plus sensible que là, il est dans un moment de colère. C'est-à-dire que la conférence de presse, elle est improvisée, et il est... effectivement très en colère.
Alors justement, Joe Biden a donc gaffé, hein, c'est la troisième fois en moins d'une semaine que le président tient des propos confus en public. Hier, on l'a dit, il a confondu les noms des présidents mexicains et égyptiens alors qu'il tenait une conférence de presse pour expliquer aux journalistes qu'il n'avait pas de problème de mémoire. Sujet de Mathieu Lignot et Nicolas Baudry-Dasson.
Nous avons une nouvelle qui vient de tomber. Le procureur spécial a renoncé à poursuivre le président Biden.
Ce n'est peut-être pas la fin de l'affaire du côté politique. Il y a des critiques sur la mémoire du président.
Cela aurait dû être une bonne nouvelle pour Joe Biden. Raté. Une enquête le visait pour avoir gardé chez lui des documents classifiés. Aucune poursuite par manque de preuves, mais un rapport qui pointe les limites cognitives du président. Le procureur spécial décrit Joe Biden pendant son interrogatoire avec ces termes. Homme âgé, il ne se souvenait plus de l'époque où il était vice-président. Sa mémoire avait empiré. Attaqué, Joe Biden a tenu à répondre lors d'une conférence de presse. Assailli de questions et très agacé.
Oui, je suis un homme bien attentionné, un homme âgé, mais je sais ce que je fais, bon sang. J'ai remis ce pays sur pied, je n'ai pas besoin de conseils.
À quel point votre mémoire est mauvaise et pouvez-vous continuer à être président?
Ma mémoire est tellement mauvaise que je vous laisse parler.
Est-ce que votre mémoire s'est dégradée, monsieur?
Non, ma mémoire est bonne.
Une opération déminage plutôt réussie, l'espace de quelques secondes. Le président fait demi-tour pour une question improvisée sur Gaza et tout s'écroule.
Le président du Mexique, Sisi, ne veut pas ouvrir ses portes pour laisser le matériel humanitaire rentrer.
Joe Biden confond le Mexique avec l'Égypte. Depuis quelques jours, il enchaîne les déclarations confuses, comme lorsqu'il raconte une entrevue avec Emmanuel Macron.
Je lui ai dit « L'Amérique est de retour ». Et Mitterrand, d'Allemagne, je veux dire de France, m'a regardé et m'a dit « Tu sais pourquoi, pour combien de temps tu es revenu ?»
Macron confondu avec Mitterrand, mais aussi Angela Merkel, avec Helmut Kohl. Le chancelier allemand est pourtant décédé il y a plusieurs années. Alors faut-il un plan B chez les démocrates pour l'élection présidentielle? 76% des Américains se disent préoccupés par les capacités de Joe Biden à mener un second mandat. Certains démocrates s'inquiètent après cette conférence de presse.
C'était un moment difficile. C'est un homme incroyable, mais c'est triste de le voir comme ça et c'est triste de le voir décliner.
Et chez les adversaires républicains, on boit du petit lait. Ces moments d'absence de Joe Biden sont du pain béni avec aussi une dose de complotisme.
Je pense que la réalité, c'est que les cadres du Parti démocrate et l'État profond ont décidé qu'ils ne veulent plus utiliser Joe Biden comme leur marionnette. Et ils lui ont tendu un piège avec cette conférence de presse. Ils voulaient prouver au peuple américain qu'il n'a pas l'acuité mentale.
Il n'est pas apte à exercer la fonction de président des États-Unis. En tant que président, il a la valise nucléaire.
Joe Biden, le démocrate, 81 ans, serait trop vieux. Mais pas le républicain Donald Trump, 77 ans. L'âge des deux candidats est un argument pour leurs opposants. Nikki Haley est la dernière à se bagarrer avec Donald Trump dans la primaire républicaine. Elle se moque et dénonce cette vieillesse.
Pourquoi autorisons-nous deux candidats de 80 ans qui ne peuvent pas gouverner 8 ans, qui sont tous les deux diminués physiquement ou mentalement?
Alors la guerre des vieux grincheux aura-t-elle lieu? Réponse après la fin des primaires républicaines et démocrates.
Anne Toulouse, c'est vrai qu'avec 77 ans, Donald Trump fait figure de petit jeune.
Oui. Ouais.
Est-ce que les Américains enragent d'avoir ainsi des octogénaires pour candidater à la Maison Blanche? Et est-ce qu'ils nous regardent, je ne sais pas s'ils ont conscience de ce qui se passe en France, mais ils nous regardent avec envie quand ils voient que chez nous, Gabriel Attal a 34 ans et Macron 46 ans.
Oui, si vous additionnez les deux, vous êtes en dessous de l'âge. Non, c'est quelque chose qui m'a frappé. Non, mais c'est vrai, les États-Unis sont un pays extrêmement jeune. Vous avez un tiers de la population qui a moins de 25 ans et une moitié qui a moins de 40 ans. Donc, qui n'était même pas né quand Joe Biden est entré en politique. Et c'est vrai, bon, il n'y a pas que l'âge, mais d'avoir des octogénaires à qui, je ne sais pas s'ils voulaient renouveler leur permis de conduire, ils ne pourraient peut-être pas, ils seraient obligés de passer un examen pour la vue. S'ils demandaient un crédit à une banque, ils ne l'auraient pas. Donc, en même temps, ils prétendent diriger la plus grande puissance du monde. Donc, non, la plupart des Américains ne sont pas contents, comme l'a montré votre sondage, d'avoir à choisir entre cet attelage au mois de novembre, on se demande pour qui on va voter. Et même si Joe Biden tiendra jusque-là. Je pense que la grande erreur, d'ailleurs, de sa part, alors qu'il avait dit qu'il ne se présentait que pour un mandat, ça a été...
Un pont, il a dit.
Hein. Oui, il n'a pas préparé sa succession, parce qu'il y a plein de gens talentueux que le Parti démocrate a laissés dans les coulisses. On ne peut pas s'opposer à un président qui n'a pas démérité, mais il y a quand même un gros, gros problème de succession qui va coûter très cher aux démocrates. Et aucun des candidats potentiels n'ose se manifester parce que maintenant, ils ne peuvent pas se fâcher avec le parti. Ils ont tous les yeux sur 2028. Mais on voit bien que des deux côtés, il y a un verrouillage des candidats qui seraient compétents, qui seraient plus jeunes. Par exemple, Nikki Haley, qui est la candidate préférée. Si l'élection avait lieu demain, elle l'emporterait haut la main sur chez les Républicains.
Chez les Républicains.
Mais là aussi, elle est barrée par le Parti Républicain. Donc on a cette espèce de gérontocratie dont les Américains ne savent pas comment se défendre.
Alors, Nicole Bacharan, est-ce à dire que le choix du vice-président chez les démocrates va être très important, parce que si le président est empêché pour une raison ou pour une autre, ou s'il meurt tout simplement, c'est le vice-président qui devient président des États-Unis. Aujourd'hui, c'est Kamala Harris. Pourquoi ne joue-t-elle pas un plus grand rôle? Et est-ce que c'est elle qui est pressentie pour le second mandat de Joe Biden?
Alors, à cette deuxième question, oui, c'est elle la candidate à la vice-présidence pour la deuxième fois. C'est déjà établi. Alors, il faut peut-être se rappeler que le rôle de vice-président est particulièrement ingrat, parce que dans la Constitution américaine, il n'a d'autre rôle que d'être dans la coulisse en attendant que le président meure. C'est ça, la réalité. Je sais que Lyndon Johnson, par exemple, disait « Quand j'entre dans le bureau de Kennedy, j'ai l'impression d'être un vautour qui tourne autour de sa proie. » Bon, et Lyndon Johnson est devenu président à la suite de l'assassinat de Kennedy. Et traditionnellement, ils n'avaient rien d'autre à faire, les vice-présidents. Et du fait du prince, du choix du président, certains ont eu de vrais dossiers à traiter. Ça a commencé particulièrement avec le tandem Bill Clinton-Al Gore, qui lui avait confié le dossier de l'environnement, qui n'était pas mince. Et ensuite, on a eu George H. Bush avec un Dan Quayle totalement inexistant et qui ne l'a pas aidé à se faire réélire. Et puis Obama et Biden, qui avaient des dossiers importants. Et ensuite... Non, j'ai raté, pardon. Enfin,
bon, bref. Mais pourquoi
mais moi, Kamala non, ouais. non, non.
Mais finalement, dire, on est tous une publicité voilà. vivante pour Joe Biden.
Je veux dire, pourquoi W. Bush, qui avait Dick Cheney, qui a joué un rôle énorme. Donc, dans le
et
cas
donc,
présent,
là, de Kamala Harris.
Ce qui nous intéresse, voilà. c'est pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été mise davantage en avant? Est-ce qu'elle a démérité ou pas? Je ne sais pas, Anne, ce que vous entendez quand vous êtes aux États-Unis, mais moi, ce que j'entends du camp démocrate, c'est qu'elle n'a rien fait de mal.
Elle n'a rien fait de bien
voilà,
non plus,
elle
c'est
elle a
le problème.
Fait une grosse gaffe. Alors, il faut dire que Joe Biden lui a confié des dossiers très ingrats sur lesquels il est impossible de dire, vous voyez, j'ai remporté un succès. Négociation avec les pays d'Amérique latine pour essayer de contenir l'immigration, défense de du droit de vote des minorités aux États-Unis. À aucun moment, elle n'a eu de moment de triomphe. Mais là, depuis le début janvier, elle est beaucoup plus présente dans la campagne. Elle est entournée de discours sur des thèmes avec lesquels son histoire résonne, sur les femmes, sur l'avortement, c'est considérable, sur les droits des minorités, sur le racisme de Donald Trump, etc. Et c'est hyper important que les démocrates la mettent en avant, parce que c'est automatique. Le président meurt ou est très malade, elle devient présidente, ou si pendant la campagne jusqu'au mois de novembre, Joe Biden avait un gros problème. Comme Anne le disait, il a en gros écarté tout autre concurrent. Je ne vois pas qui pourrait empêcher Kamala Harris d'être celle qui le remplacerait également pour l'élection.
Marie-Cécile Nave, est-ce qu'on peut quand même se poser la question de savoir si Joe Biden ira jusqu'au bout? Est-ce que les Américains se posent cette question? Et dès lors, est-ce qu'ils regardent avec beaucoup plus d'intérêt qui est le vice-président et quel est le numéro 2 sur le ticket, enfin je parle des démocrates, pour lequel ils s'apprêteraient à voter?
Je pense que tout est possible dans cette campagne. On est encore très loin du 5 novembre et dans un camp comme dans l'autre, démocrate ou républicain, il peut vraiment se passer beaucoup de choses parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais chez Donald Trump aussi, il y a des absences.
Ah oui, il a confondu Erdogan et Orban, le président turc et le président hongrois. Alors on peut dire que c'est plus lointain, que les sonorités se ressemblent?
Entre autres, il a dit que, voilà, que Orban était président turc, et puis il a confondu Nikki Haley et Nancy Pelosi, l'ancienne speaker
démocrate. C'est plus proche de lui, là.
Et immédiatement, Biden a fait un tweet pour dire...
Je ne suis pas
toujours d'accord avec Nikki Haley, mais je la confonds pas avec Nancy Pelosi. Donc, bon, la vice-présidente a quand même le rôle important de présidente du Sénat. Donc ça a été quand même déterminant dans le premier mandat, dans les deux premières années, pardon, du mandat de Biden, quand c'était 50-50 et qu'il a fallu trancher pour un certain nombre de lois. Et puis, on ne le voit pas forcément de ce côté-ci de l'Atlantique, mais Kamala Harris, elle bat la campagne depuis le début. Elle fait le service après-vente de toutes les grandes lois sur le plan de relance, l'Inflation Reduction Act, les questions des droits des femmes, ça a été dit par Nicole Vachon à l'instant. Donc, elle a vraiment un rôle de communication sur l'action du président. Mais pour répondre à votre question, bien sûr, les électeurs démocrates s'interrogent sur ce qui peut se passer si jamais Joe Biden est empêché, s'il a un gros accident de santé, etc. De lui-même, il ne se retirera pas.
Ah bon?
On a du mal à l'envisager.
C'est quoi ? C'est l'attrait du pouvoir qui fait que, même si on voit bien qu'on est diminué, on ne lâche pas les rênes.
Sans doute. Il a été le plus jeune sénateur. Il est en politique depuis extrêmement longtemps. Et puis, la perspective de se reconfronter à Trump qui lui nie sa victoire de 2020, pour lui, c'est aussi... c'est presque une affaire personnelle. De chaque côté, il y a une
affaire. Parce qu'il avait dit, pardonnez-moi, je vous coupe, mais en 2020, qu'il ne ferait qu'un mandat. Hein. Il avait dit, je me vois comme un pont et pas autre chose.
C'est la transition vers l'Amérique de Kamala Harris.
Ouais. Donc, il revient sur sa parole, finalement.
Ouais, absolument, et ça a surpris un peu tout le monde. Mais dans le camp démocrate, ça a été difficile d'aller contre ça parce que Biden est un des grands artisans des bons résultats des démocrates aux élections de mi-mandat de novembre 2022. Si la Bérézina annoncée avait eu lieu pour les élections de mi-mandat de novembre 2022, ça serait un tout autre scénario aujourd'hui. Or, les démocrates sont renforcés au Sénat, ont limité la casse à la Chambre des représentants, puis des victoires locales, et c'est grandement à mettre au crédit de Biden. Mais il y a des plans B, il y a quand même le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, il y a quand même la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, il y en a le gouverneur du Wisconsin, etc. Il y en a d'autres qui sont là, prêts à prendre la suite, mais plus on avance vers le 5 novembre, plus c'est difficile d'imposer une nouvelle figure qui soit... connu au niveau national.
Laurie Kentoncy, on a bien compris, Joe Biden a envie de concourir pour un second mandat parce qu'en face de lui, c'est Donald Trump. Et Donald Trump est ravi d'avoir en face de lui Joe Biden plutôt que d'avoir une Kamala Harris, etc., de faire le match retour de 2020. En fait, ces deux-là, ils se sont trouvés contre l'intérêt des Américains. D'ailleurs, vous me disiez, les trois quarts des Américains ne veulent pas du match retour.
Il n'est pas forcément revenu sur sa promesse d'être un one-term president, mais en fait, quand il a battu Trump en 2020, personne n'imaginait, surtout après le 6 janvier, que Trump allait se représenter et allait avoir un avenir politique. Donc l'idée était que quelqu'un parmi les Républicains qui n'est pas Trump allait se présenter, probablement contre Kamala Harris ou quelqu'un d'autre. Mais comme Trump est revenu en grâce auprès des Républicains, Biden justifie sa deuxième candidature par cet argument-là. Après, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que les Américains veulent, en ont marre des vieux, veulent des plus jeunes, etc. On a vu chez les démocrates comme chez les Républicains que les plus jeunes peuvent être les plus radicaux, les plus clivants, et pas forcément les plus à même de réconcilier le pays. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand on demande aux sondés et aux électeurs, ils disent pas qu'ils veulent pas Biden. Quand on regarde, par exemple, là, il y a une primaire démocrate. On a vu tout à l'heure les images de Dean Phillips, qui est un des seuls à se présenter contre Biden. Personne ne vote pour lui. Les gens pourraient voter pour lui parce que...
Et pourquoi alors pourquoi les démocrates votent-ils pour Joe Biden et pas pour un plus jeune ?
Parce qu'ils ne le voient pas comme président, tout simplement. Et Biden fait le job correctement.
Là, on le voit. Vous voulez dire que dans... tous les démocrates, il n'y a personne qui pourrait faire le job à la Maison-Blanche.
Ah bah, ce n'est pas moi qui le dis, mais il a quelques milliers de voix dans les premiers États où il a été, où il y a eu des primaires, c'est très peu. Et quand on regarde les sondages, alors là, c'est des sondages, Gavin Newsom, gouverneur de Californie, contre Trump, il ne fait pas beaucoup mieux, voire il fait un peu moins bien que Biden. Kamala Harris contre Trump, elle ne fait pas beaucoup mieux que Biden. Donc il n'y a pas dans les sondages, il n'y a pas de tout sauf Biden chez les démocrates. On est prêt à voter pour n'importe qui pourvu qu'il n'ait pas 80 ans. Les gens votent, enfin en tout cas disent qu'ils sont prêts à voter pour Biden.
Donc Anne Toulouse, est-ce que la clé pour que Joe Biden gagne, c'est qu'au fond il se montre le moins... Parce que vous dites qu'il aime beaucoup parler, donc il fait beaucoup de gaffe. Ben, c'est justement qu'il essaye de...
Bah, il aimait.
Là, du coup, demain soir, dimanche soir, c'est le Super Bowl aux États-Unis. Traditionnellement, le président, comme un peu chez nous le 14 juillet, accorde une interview. Là, il ne donnera pas d'interview. Il reste chez lui.
Mais on voit bien que la Maison-Blanche essaie de l'exposer le moins possible, parce qu'on dit qu'il est très brillant dans les réunions professionnelles, etc. Le problème, c'est que les Américains n'y sont pas. Ils ne le voient que quand il rate la porte, quand il descend de son avion et qu'il ne sait pas de quel côté aller et qu'il y remonte. Vous voyez, c'est des images qui font mal, d'autant plus qu'aux États-Unis, on filme en permanence le président. Vous ouvrez la télé, vous avez ce qu'il a fait dans la journée. Vous avez des journalistes qui campent à la Maison-Blanche et il faut bien qu'ils aient une histoire tous les jours. Donc, c'est vrai que faire une campagne, c'est quand même assez difficile. Alors, quand on dit aussi, dans les primaires, il remporte toutes les primaires, oui, parce qu'il y a un représentant du Wisconsin que personne ne connaît. connaît. Et je ne sais pas si vous avez regardé combien de gens votent dans les primaires. On a dit, ouais. Oh, mais c'est extraordinaire, en Caroline du Sud, il a fait 96% des voix. J'ai fait le calcul sur un pays, sur un État qui fait plus de 5 millions d'habitants, ça fait 130 000 voix. Alors ça ne fait quand même pas un grand enthousiasme pour aller
voter. Il n'y a que les ultra-fans qui votent. Quoi,
le drame des primaires, c'est que vous avez les ultra-convaincus des deux côtés. Et au milieu, vous avez les centristes des deux côtés qui soit ne s'expriment pas, soit n'ont pas le temps. Et puis vous avez les indépendants qui sont quand même le plus grand parti et à qui on ne demande jamais leur avis. Donc ça fait quand même plus du tiers du pays, je dirais 40% qui ne participent pas à cette grande fête des primaires.
Nicole Bacharan, Louis dans l'Essonne, pourquoi les démocrates n'ont-ils pas préparé la succession de Biden ?
Je pense que Joe Biden, il avait un plan, si vous voulez, de succession, même bien avant 2016. C'était son fils, Beau Biden, qui devait reprendre le flambeau de la dynastie politique et qui avait tout bon, si vous voulez, à la fois ancien procureur, vétéran de l'Irak, etc. Et la mort de Beau Biden en 2015 d'un cancer du cerveau a fait basculer ce projet de retraite de Joe Biden, qui était bien réel, d'autant plus que son fils lui a dit « il faut que tu y ailles ». Promets-moi d'y aller face à Donald Trump. Donc c'est une mission, en fait, pour Joe Biden. Après, vous avez le fait qu'il soit persuadé qu'il est le seul qui peut battre Donald Trump une seconde fois. Et puis, les choses, je crois, humaines de l'âge, c'est que s'il rentre chez lui, ben c'est fini. La politique, ça a été toute sa vie. Et dire « c'est fini pour moi », c'est quelque chose d'extrêmement douloureux,
social.
Et il n'y a vraiment qu'une personne qui pourrait lui dire « il faut passer la main », c'est sa femme, qui le protège au maximum et qui donne les ordres à l'équipe de la Maison-Blanche pour protéger Biden et qui paraît-il furieuse chaque fois que son équipe le laisse dans une position vulnérable face à des journalistes sans intervenir ou quand ça dure trop longtemps. Donc effectivement, Joe Biden n'a pas prévu la suite. Sauf qu'elle est prévue de manière institutionnelle avec la vice-présidente et même au sein du parti. Il y a les conventions, d'ailleurs, dans les deux partis qui ont lieu à l'été, où si le candidat, la candidate ne peut pas assurer son rôle, eh bien, le parti tel qu'il est représenté à la convention peut choisir un autre candidat.
Comme Marie-Cécile Nave, tout est possible d'ici novembre prochain.
Tout est possible, absolument. Non,
au fond de vous-même, vous y croyez au match retour Biden-Trump avec, où on pourrait avoir des surprises?
Je pense qu'on peut avoir beaucoup de surprises, mais le problème des surprises, c'est que je ne peux pas vous les prédire.
Voilà. Alors, côté républicain, la route vers l'élection semble toute tracée pour Donald Trump. Hier, la Cour suprême a indiqué ne pas vouloir invalider la candidature de l'ancien chef d'État pour la présidentielle. Les primaires républicaines s'apparentent à une simple formalité. Donald Trump devrait donc être désigné candidat en juillet prochain. C'est un sujet de Romain Besnénou et Christophe Roquet.
C'est un moment décisif pour la démocratie américaine. Le sort de Donald Trump pour la prochaine élection présidentielle est entre les mains de la Cour suprême.
Un État peut-il considérer un homme politique de premier plan comme insurrectionniste et ensuite retirer son nom des bulletins de vote? Ce qui se joue ici est très important.
Pour les neuf sages de la Cour suprême, la question est simple. Donald Trump peut-il encore être candidat après les événements du 6 janvier 2021 ? L'ancien président est accusé d'appel à l'insurrection, d'avoir incité ses milliers de partisans à prendre d'assaut le Capitole. Un choc pour l'Amérique, une rupture définitive entre les deux camps. Que représente le 6 janvier pour vous ?
C'était magnifique. Il y avait des milliers, des centaines de milliers de gens ici.
En tant que fille d'immigrée, qui a des droits dans ce pays, je refuse d'accepter que quelqu'un piétine la Constitution.
Après l'audience d'hier, la Cour s'orienterait vers une annulation du recours déposé par le Colorado, les juges refusant d'accorder autant de pouvoir aux juridictions locales.
Il ne restera plus qu'une poignée d'États pour décider de l'élection présidentielle. C'est une conséquence assez redoutable.
Pourquoi un seul État devrait décider qui peut être président des États-Unis ?
La victoire serait totale pour Donald Trump.
Comment pourrait-on dire aux favoris d'une élection « Hey, on ne va pas vous laisser vous présenter ». Toutes ces affaires sont montées par la Maison-Blanche, par Biden. C'est de l'ingérence électorale et c'est vraiment très triste.
Donald Trump devance en effet tous ses concurrents à la primaire et même Joe Biden dans les sondages. Hier encore, il remportait haut la main le caucus du Nevada. Trump, sûr de lui.
Est-ce qu'on n'avancerait pas l'élection un mardi prochain, franchement ?
Et plus décomplexé que jamais.
Nous devons fermer nos frontières. D'ici la fin du mandat de Joe Biden, 19 millions de migrants vont entrer dans notre pays. C'est plus que la population de l'État de New York. Et ces gens viennent pour la plupart de prisons. Ils viennent d'hôpitaux psychiatriques. Ce sont des terroristes.
Plus la campagne avance, plus l'influence de Donald Trump semble décuplée. Ses troupes au Sénat bloquent depuis des mois une enveloppe de 60 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Il faut dire que l'ancien président a une vision bien particulière de cette guerre et sa petite idée pour y mettre fin.
Si vous êtes réélu, est-ce que vous donnerez plus de moyens à l'Ukraine ?
Si j'étais président, je résoudrais cette guerre en une journée. En 24 heures.
Et comment feriez-vous ?
Je rencontrerai Poutine et Zelensky. Et ils ont tous les deux des faiblesses et des atouts. Et en 24 heures, ce serait réglé. Terminé.
Un pari qu'a visiblement fait Vladimir Poutine. Il donnait cette semaine sa première interview à un média occidental depuis le début de la guerre en Ukraine. Et pas à n'importe qui, à Tucker Carlson, journaliste vedette américain, ultra-conservateur, complotiste et trumpiste.
Une défaite de la Russie, c'est impossible par définition. Cela n'arrivera jamais. Je pense que ceux qui sont au pouvoir en Occident l'ont bien compris. Et si cette prise de conscience a eu lieu, réfléchissez maintenant à ce qu'il va falloir faire ensuite. Nous, nous sommes prêts pour le dialogue.
L'entourage de Donald Trump a déjà annoncé que Tucker Carlson pourrait le rejoindre en cas de retour à la Maison-Blanche, en tant que porte-parole ou même vice-président.
Marie-Cécile Nave, on vient d'entendre Vladimir Poutine dire « c'est impossible que la Russie perde ». Question téléspectateur, la victoire de Donald Trump entraînerait-elle la fin de l'aide américaine à l'Ukraine ?
Oui, on peut le penser, même s'il n'est pas tout seul à décider. Hein. C'est aussi des choses qui sont votées au Congrès. Donc il ne pourra pas faire grand-chose, Trump, s'il n'a pas un Congrès quand même républicain. Bon, même s'il a des velléités à peine voilées de dictature, il faut aussi qu'il ait une majorité au Congrès. Mais bien sûr, hein, et d'ailleurs c'est déjà presque en train d'arriver, puisque les républicains complètement trumpisés, ce qui est assez fascinant, parce que c'est presque lui qui leur parle dans l'oreillette, les républicains au Congrès aujourd'hui diminuent drastiquement, voire suppriment les aides militaires et financières à l'Ukraine, et aussi votent contre un projet de loi durcissant les conditions d'immigration aux États-Unis pour ne pas faire plaisir à Biden alors que c'est leur agenda. Donc oui, pour répondre à la question, oui, absolument.
Nicole Bacharan, Donald Tusk, le Premier ministre polonais, la larme à l'œil, a dit « honte à vous ». Les républicains héritiers de Donald Trump, parce que lui se souvient qu'en 87, Ronald Reagan est venu et a dit à M. Gorbatchev « Tear down that wall », abattez ce mur. Et il a dit « Moi, j'ai été élevé, Donald Tusk, avec l'Amérique qui nous avait libérés. Aujourd'hui, l'Amérique nous laisse tomber. » Il a changé le parti républicain,
Trump. Mais complètement. Il l'a pris en otage. Il y a beaucoup d'élus, de responsables qui ont démissionné, qui n'en peuvent plus de la manière qu'il a de rendre les gens ridicules, de les menacer, de les tourner sans arrêt en dérision. Il a poussé des candidats très très radicaux, qui ne sont pas si nombreux que ça au Congrès, mais qui sont nécessaires pour faire une majorité. Et le parti républicain actuel, par cynisme quand même essentiellement, par carriérisme, n'ose pas en fait contrarier non pas Trump lui-même, mais les 30% d'électeurs en gros qui lui sont fidèles et qui le suivront jusqu'en enfer, quoi qu'il fasse. Et on peut dire que ce n'est plus le parti de Reagan et que Reagan ne serait pas élu par les trumpistes. Ce serait un dangereux gauchiste.
À Toulouse néanmoins, l'Ukraine, ce n'est pas la Pologne. Aujourd'hui, les Américains, ils en pensent quoi de cette guerre en Ukraine. Est-ce qu'ils la comprennent? Est-ce qu'ils, peut-être qu'ils situaient, ils comprenaient la Pologne, mais l'Ukraine, est-ce qu'ils comprennent?
Non, il y a eu au début une sympathie et aussi une admiration pour toute cette force américaine qui a été déployée. Mais on sent quand même monter, et y compris chez les démocrates, par exemple, dans le caucus noir, qui est une frange importante du Parti démocrate, et dans l'aile gauche du Parti démocrate, dire « oui, mais écoutez, tout cet argent qu'on déploie, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre chez nous? Il y a des gens qui en ont besoin. » Et puis vous avez aussi alors ceux qui ont plus des sympathies du côté des Républicains, disant à côté, vous avez vu, la frontière, c'est une vraie passoire. Maintenant, vous avez des gens qui dorment dans la rue jusqu'à New York ou à Chicago. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre ses forces pour sécuriser la frontière?
Occupons-nous de notre frontière avant de nous occuper de la frontière ukrainienne.
Et pourquoi les Européens ne s'occupent-ils pas de leur frontière? Ça, c'est un discours qui prend, parce que c'est loin, l'Ukraine. Et puis, les Américains aiment bien les choses qui se résolvent rapidement. Et puis là, à partir du moment où on a eu l'impression que c'était enlisé, qu'il n'y avait pas de solution, d'un seul coup, on a vu le sujet tomber dans les journaux, dans l'actualité. D'un seul coup, ben, on n'aime pas trop les perdants.
Ah, donc, est-ce que d'ailleurs, Laurie Kenton, le soutien de Joe Biden à l'Ukraine ne devient pas embarrassant?
Mais en fait, le problème, c'est est-ce qu'il y aura un soutien similaire de Biden à l'Ukraine après une éventuelle victoire en 2024? Donc, quand il reprend ses fonctions en 2025, est-ce que ça va continuer ou est-ce qu'il va, comme le ferait Trump, les mettre autour d'une table de négociation et dire « bon, ben, maintenant, il n'y a pas de solution, on est un petit peu en mode 14-18, hein, ça n'avance plus, il va peut-être falloir trouver une solution parce qu'on ne va pas continuer à payer ad vitam aeternam ». Parce qu'effectivement, c'est une constante chez les démocrates, l'interventionnisme a un coût. Et déjà sous Obama, il y avait toute une frange du Parti démocrate qui disait, Obama notamment, disait tout cet argent pourrait être habilement réutilisé chez nous parce qu'il y a un certain nombre de petits sujets chez nous qui nécessitent des fonds. Donc Irak, Afghanistan, est-ce que tout cet argent ne pouvait pas être réutilisé? Même chose pour l'Ukraine. En fait, on a des continuités. Et ce refus, cette réticence à intervenir a été un des rares axes de continuité entre Obama et Trump.
Marie-Cécile Nave.
Oui, je suis d'accord. Néanmoins, c'est aussi la question du rôle de la Russie dans le monde et du poids de la Russie dans le monde. Et c'est un jeu géopolitique de domino. Hein. L'objectif de Biden, mais aussi d'une partie des républicains qui ont peur de Trump, mais qui quand même voient bien que l'influence de Poutine, non seulement en Europe, mais aussi en Afrique, en Asie, dans le Moyen-Orient, c'est quand même un sujet. Hein. Donc, c'est pas simplement l'Ukraine. Ça veut dire, si on laisse un blanc-seing à Vladimir Poutine, ça aura des conséquences importantes sur la place de la Russie dans le monde et la fragilité des États-Unis sur d'autres sphères du globe.
C'est la Russie triomphante et donc un signe d'affaiblissement de l'influence américaine. Alors, on l'a dit, Joe Biden est en retard dans les sondages et ses décisions en matière de politique étrangère ne vont, semble-t-il, pas l'aider à remonter la pente. Le soutien du gouvernement américain à Israël l'éloigne du parti de son électorat, la jeunesse urbaine notamment. Une équipe de C'est dans l'air s'est rendue à New York pour comprendre la colère de ces jeunes démocrates acquis à la cause palestinienne. C'est un reportage de Juliette Vallon, Arnaud Fora, avec Léa Dermidjian.
Un cri, une accusation. Dans les rues de New York ce week-end, le conflit israélo-palestinien résonne. Depuis 4 mois, comme chaque semaine, inlassablement, ces manifestants se réunissent en soutien à la cause palestinienne.
Si on ne manifeste pas, qui va le faire? Les enfants meurent en Palestine, donc qui va bouger? Ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas internet, ils n'ont rien. Si on ne le fait pas, qui va le faire? Ils meurent et nous, on doit se battre pour eux.
Je suis là parce qu'Israël commet un génocide envers le peuple palestinien et que ça dure depuis des décennies. En tant que citoyen américain qui paye ses impôts et dont les impôts vont financer des armes de destruction contre le peuple palestinien, j'ai le droit et la responsabilité d'être là.
Près d'un millier de personnes défilent, encadrées par une forte présence policière. Aux États-Unis, le conflit israélo-palestinien divise. Entre les partis politiques, entre les communautés, l'impossible dialogue.
C'est une véritable honte que les gens perdent leur humanité. C'est vraiment une honte.
Alors que nous essayons d'interviewer cette dame avec un drapeau israélien dans les mains, nous sommes interrompus.
Je n'ai jamais vu aucune de ces personnes venir en aide aux populations à Gaza avant ce conflit.
Le conflit fracture la société américaine et s'invite même dans les facultés. Michael Rockman étudie l'informatique à Columbia. Depuis le 7 octobre, le quotidien de cet étudiant juif n'est plus tout à fait le même.
Je pense que rien ne sera plus comme avant. Je veux dire, spécialement quand vous portez quelque chose, comme une médaille ou n'importe quel objet juif que vous sentez que vous devez cacher, les gens vous regardent de travers.
Insultes, agressions. Dans son établissement, certains étudiants ont été visés parce qu'ils étaient juifs.
Voilà quelque chose qui date de la semaine dernière. C'est une affiche où il est écrit « Un putois sur le campus » avec un drapeau israélien sur le putois. Et ça a inquiété beaucoup d'étudiants juifs parce que ça ressemble à ce qu'on voyait juste avant l'Holocauste. Qui sait ce qu'il se passera dans 20 ans quand notre génération, qui est plus anti-Israël et plus antisémite, arrivera au pouvoir? Est-ce qu'on a vraiment un avenir dans ce pays? Forcément, cela pourrait influencer le vote à la présidentielle parce qu'on sera peut-être nombreux à vouloir un président qui soutienne plus Israël.
Le conflit israélo-palestinien bousculera-t-il l'issue de la présidentielle de novembre? Dans les manifestations pro-palestiniennes, le président Joe Biden est un coupable désigné.
Environ 80% des démocrates veulent un cessez-le-feu et 60% des Américains veulent un cessez-le-feu. Pourtant, le président et son administration financent ce génocide. Donc je pense qu'ils se sont mis à dos tous leurs électeurs et rendu impossible le fait qu'on vote pour eux dans ce climat politique.
Parmi les manifestants rencontrés, beaucoup avaient voté Joe Biden en 2020. Cette fois, le démocrate n'aura pas leur voix.
Anne Toulouse, on a l'impression que ce sujet du conflit israélo-palestinien clive encore plus la société américaine qu'il ne clive la société française.
Oui, enfin, les campus ne sont peut-être pas le bon exemple parce que c'est un lieu d'agitation permanente. Et en ce moment, c'est le sujet d'agitation à la mode. Vous savez ce qui se passe, hein, dans les manifestations d'étudiants, il y a celui qui crie le plus fort et les autres suivent. Et d'ailleurs, on a vu sur certaines enquêtes qu'il y avait une conscience politique qui était assez faible quand on leur disait « Mais où est Israël sur une carte? Vous connaissez la problématique d'Israël ?» Et il y avait même un professeur de Stanford qui a pris un groupe d'étudiants et disait « Vous avez votre slogan de la mer, de la rivière à la mer, la Palestine doit être libre. Alors quelle rivière et quelle mer ?» Les réponses ont été surprenantes. Il y a eu l'océan Atlantique, il y a eu le Nil. Et puis
ce que vous voulez dire par là, c'est que c'est un prétexte au fond.
Oui, alors il faut voir aussi
pour exprimer d'autres causes.
Les campus ont toujours été à gauche de la gauche et ils ont été aussi beaucoup travaillés par des États comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, qui ont installé des centres culturels et qui agitent beaucoup ce qui se passe. Donc vous voyez, est-ce que ça représente les États-Unis et l'Amérique moyenne? Non, absolument pas. Non, absolument pas. C'est un mouvement. Mais on le retrouve aussi dans la gauche du Parti démocrate et aussi parmi les minorités. Il y a une sorte de solidarité entre, je parle principalement des Noirs, parce que les Hispaniques et les Asiatiques ne se mêlent pas de ce genre de choses.
C'est un symbole de la minorité opprimée.
C'est le symbole de la minorité
opprimée. Nicole Bacharan.
Oui, c'est vrai que, évidemment, enfin, je veux dire, c'est tout à fait légitime de se préoccuper du sort
des Palestiniens,
du sort de Gaza, du sort des Palestiniens. Mais ce qui est quand même frappant, et Anne a raison, je veux dire, le campus, ce n'est pas l'Amérique, mais c'est l'extrême ignorance qui se manifeste. Vous mentionniez la géographie. Je veux dire, j'ai regardé les pancartes, toute l'aide américaine va à Israël. Alors, ça fait des décennies qu'il y a une importante aide américaine à Gaza, notamment, et c'est Donald Trump qui l'a coupé. Donc la révolte contre Joe Biden pour faire élire Donald Trump semble une espèce de politique du pire tout à fait surprenante. Et puis il y a ce schéma présent dans les campus, présent dans la forme extrême, disons, du wokisme. Le monde s'analyse en oppresseur et opprimé. Et l'oppresseur, c'est le blanc riche. Donc c'est tellement aberrant pour expliquer ce qui se passe au Moyen-Orient, même sans prendre parti. Mais vous allez en Israël, les gens sont réellement de toutes les couleurs. Le sioniste blanc n'est même plus majoritaire. Donc je trouve ça terrible que ces jeunes qui sont dans les universités d'élite prennent parti à partir d'une base aussi ignorante. Et puis visiblement, une incompréhension absolue de ce qui s'est passé le 7 octobre, de cette tuerie presque à main nue, même s'il y avait des armes, mais vraiment au corps à corps, avec un raffinement de cruauté inimaginable. C'était pas la guerre, c'était pas des bombardements, c'était un pogrom inimaginable. Donc, quelles que soient les critiques apportées à Israël et qui sont portées, quand ça veut être efficace, par le gouvernement américain lui-même, Israël ne peut pas vivre avec des gens qui prévoient la suite du 7 octobre. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on n'ait pas un souci tout à fait légitime de ce qui va arriver ensuite à la population palestinienne.
Marie-Cécile Nave.
Joe Biden change son discours public, en public, sur Israël. C'est-à-dire ce qu'il réservait jusqu'ici aux négociations privées avec Netanyahou et qui était difficile, hein, c'est-à-dire que c'est quand même des discussions difficiles. Et bien maintenant, ces propos-là de critique vis-à-vis de l'action que Israël mène à Gaza contre les populations
civiles, sont publics.
Il le dit publiquement parce que, même si évidemment il ne faut pas surestimer le poids de ces manifestations dans les intentions de vote, d'autant qu'on est quand même à très longtemps de l'échéance, il est obligé d'en tenir compte parce qu'il y a une chambre d'écho, etc. Et donc il change le ton qu'il a vis-à-vis d'Israël, non seulement ce qu'il avait jusqu'ici en privé dans les négociations géopolitiques, mais maintenant il le dit publiquement dans les conférences de presse, etc.
Notamment. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
Oui, absolument.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.